France Culture.
La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, comment l'univers s'est-il peu à peu découvert ? L'univers ne ressemble guère à ce que nos yeux nous font croire qu'il est. On le sait grâce aux physiciens et aux astrophysiciens qui, au cours de l'histoire, sont devenus capables de mesurer des quantités de moins en moins perceptibles. Ils se sont progressivement éloignés des phénomènes ordinaires pour aller vers toutes sortes d'extrêmes. L'ultra-microscopique, le très vaste, l'extrêmement bref, le très lointain, l'incroyablement rare, le très chaud, l'ultra-discret, et dans chacun de ces nouveaux secteurs donnant accès à ce qui s'est passé dans l'univers, ils sont parvenus à investir des phénomènes jusqu'alors complètement cachés. Ils ont ainsi donné raison à Gaston Bachelard, qui écrivait en 1929 « Le problème de la mesure sous-tend dans son développement l'histoire entière de la science ». La précision des mesures suffit à caractériser les méthodes scientifiques d'un temps. Fin de citation. Il est donc utile et surtout intéressant de revenir sur la façon dont les scientifiques ont découvert ce que nous savons aujourd'hui sur l'univers. Et par la même occasion de recenser les problèmes qui, aujourd'hui, les turlupinent. Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Françoise Combes. Bonjour.
Bonjour, Étienne.
Je sais votre emploi du temps très chargé et je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes astrophysicienne, vous êtes présidente de l'Académie des sciences, la deuxième de l'histoire.
Oui, exactement.
Vous êtes professeure au Collège de France, vous tenez la chaire Galaxie et Cosmologie. Vous êtes lauréate de la médaille d'or du CNRS en 2020 et vous publiez un livre très éclairant qui s'intitule « Petite histoire de la cosmologie » qui vient de paraître aux éditions du CNRS. Alors, dans votre livre, et c'est ça qui le distingue de la plupart des livres qu'on peut lire sur le même sujet, vous parlez de femmes dont on connaît peu les noms et qui ont pourtant eu des rôles et qui ont fait des découvertes très importantes dans le domaine qui est vôtre. Évidemment, il y a Émilie du Châtelet, qu'on connaît un peu quand même.
Oui.
Elle a traduit le fameux livre de Newton et Principia en français, mais on sait moins qu'elle y a ajouté des commentaires.
Mm-hmm.
Elle a fait des calculs.
Oui,
que Newton n'avait pas fait.
Aussi.
Et quelle découverte a-t-elle faite ?
Par exemple, l'énergie cinétique.
C'est elle qui a compris que...
Elle a compris, avec l'aide de Leibniz, qu'en effet, il y avait une énergie vive et qui était liée à la vitesse des particules, donc la dynamique. Et cette énergie cinétique allait être en balance avec l'énergie potentielle de la gravité, celle de Newton.
Et vous qui êtes présidente de l'Académie des sciences, je l'ai dit... Vous savez sûrement, d'ailleurs vous l'écrivez dans votre livre, vous savez sûrement parce que vous l'avez écrit dans votre livre, c'est comme ça que je l'ai su d'ailleurs, elle a écrit un traité sur la nature du feu et sa propagation, et c'est un des premiers textes publiés par une femme à l'Académie des sciences.
Oui, en fait, à l'Académie des sciences, on n'avait pas le droit, les femmes n'étaient pas autorisées à venir à l'Académie et même à écrire, publier. Donc je pense qu'elle s'est fait aider de Voltaire, qui était son compagnon, pour essayer de faire passer des textes. Parce qu'une femme ne pouvait pas faire passer de textes à l'Académie.
Elles ont pu à partir de quand ?
Je pense que c'est le XXe siècle. Et quand on regarde aussi les femmes qui ont été élues à l'Académie, il a fallu attendre 1979. Comme on sait, Marie Curie a essayé de rentrer à l'Académie et on l'a refusée, malgré les prix Nobel. Il y avait eu d'ailleurs un certain conclave, si on peut dire, de l'Institut. Il n'y avait pas que l'Académie des sciences, il y avait toutes les autres académies, Académie française, Inscription et Belles-Lettres, Sciences morales et politiques et Académie des beaux-arts. Tout cela a été réuni sous la coupole pour dire que finalement, mais non, la tradition veut qu'il n'y ait pas de femmes à l'Académie, il n'y aura pas de femmes à l'Académie. C'est quand même assez invraisemblable en 1911. Et même sa fille, Irène Joliot-Curie, elle a été encore plus tenace, elle s'est présentée 4 fois. 4 années consécutives, et toujours non. Pourtant, elle avait aussi un prix Nobel.
Deux même.
Et donc, il a fallu attendre 1979, et c'est Yvonne Choquet-Brua, qui justement a travaillé beaucoup sur la relativité générale d'Einstein, et a prédit un peu les ondes gravitationnelles qu'on a détectées en 2015, et qui est décédée cette année. Donc, on a fait une célébration, justement, cette année. Et donc, elle était la première élue, en 1979, quand même, c'est une honte pour l'Académie des sciences, je dois dire.
Et quand est-ce que vous avez décidé de vous lancer dans la carrière d'astrophysicienne? Et quels sont les personnages, masculins ou féminins, qui vous ont inspiré?
Alors, pour l'astrophysique, je ne suis prononcée que vers le tard. À la fin des études de l'école normale, on devait choisir un sujet de thèse, troisième cycle. C'est là que j'ai fait une petite visite de tous les laboratoires possibles et finalement, j'ai tombé sur la théorie qui est développée Roland Hamnès et aussi Richard Smann à l'Observatoire de Paris. Et ça m'a paru très excitant parce qu'il reprenait la cosmologie, le Big Bang et regardait si on pouvait avoir un Big Bang avec la matière, l'antimatière à égalité. Et puis, on a montré que ça marchait pas, mais c'était quand même très très excitant de faire les calculs, etc. Donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'être astrophysicienne. Mais auparavant, je pensais que la recherche m'intéressait beaucoup, découvrir les choses, chercher, la curiosité, tout ça m'intéressait, mais je savais pas du tout dans quelle matière j'allais faire de la recherche.
On a parlé d'Émilie du Châtelet, donc de Newton, d'une certaine façon. Mmh. Et vous dites Newton, le coup de la pomme, là. C'est un
oui,
coup de génie.
Ça, c'est une légende, hein, la pomme.
Oui, mais il l'a quand même dit.
Il l'a dit après coup, parce qu'en fait, il voulait aussi faire sa promotion. En fait, on voit bien qu'il y avait une rivalité entre Hooke, à l'époque.
Robert Hooke,
qui avait déjà prévu une petite loi en 1 sur R2, puisqu'il avait fait passer des billes dans une coupelle qui ressemblait à une parabole, etc. Et ils étaient en compétition, et on voit que les lettres entre Hooke et Newton, on voit bien que Hooke avait déjà aussi la loi de... Il n'avait pas tout, hein, mais il avait déjà la loi en 1 sur R2, etc. Donc ensuite, Newton a publié ses Principia, qui étaient encore beaucoup plus complets, puisqu'il y avait l'accélération, l'inertie, il y avait les marées, etc. Mais il n'a rien cité de Hooke. Pourtant, dans toutes les lettres, on voyait bien qu'il s'était inspiré de Hooke. Et donc, il a voulu aussi faire sa promotion, sa légende. Et il a construit un pommier dans son jardin, et il a inventé cette terrible pomme. Enfin bon, c'est pour bien montrer au grand public l'idée que finalement, ce qui fait tomber la pomme sur Terre, donc la gravité sur Terre, est la même que celle qui fait tomber la Lune sur la Terre. Enfin, si elle tombait pas autour de la Terre, la Lune tomberait sur la Terre. Il avait pensé que c'était la même force. C'est ça l'idée de génie qu'il y a eu.
Mais en fait, c'est de la com, ce que vous dites.
C'est de la com.
Mais de la com qui a marché.
Qui a marché. En effet, l'image est jolie, il faut bien dire.
Françoise Combes, il y a une deuxième alors physicienne, je sais pas comment il faut l'appeler, ou astronome, dont vous parlez, dont je connaissais personnellement pas le nom, c'est Nicole Reine Lepaute, qui était la femme de l'horloger du roi au XVIIIe siècle, et qui s'est intéressée de très près à la comète de Halley, et va faire des calculs qu'on peut qualifier de monstrueux.
Ah, c'est monstrueux.
Pour essayer de prédire la période de la comète en question, à propos de laquelle Halley, son découvreur, s'était trompé.
Voilà, ce qui est normal, puisqu'il n'avait pas eu le temps de faire tous les calculs. Il savait qu'il avait quand même démontré que c'était la même qui revenait, peut-être tous les 76 ans environ. Mais il fallait faire des tas de calculs, parce que c'est pas seulement un calcul à deux corps avec le Soleil et la comète, mais plutôt, il faut avoir toutes les perturbations de toutes les planètes. Donc il faut avoir les éphémérides de toutes les planètes.
Et donc, notamment Saturne et Jupiter.
Il y avait Saturne et Jupiter. Et donc là, il n'y avait pas d'ordinateur, parce qu'aujourd'hui c'est facile, mais là il fallait faire tout le calcul à la main. Et donc ils ont passé 6 mois, et d'arrache-pied, parce que on savait bien qu'elle allait arriver, il valait mieux finir le calcul avant qu'elle arrive, sinon c'était trop tard. Et donc alors il y avait deux académiciens, Lalande et Pierrot. Et bon, en tant que femme, elle n'avait pas le droit d'aller à l'académie, de toute façon. Donc Pierrot avait des algorithmes, et elle avait donné à Nicole Reine Lepaute, qui a fait ses calculs avec Lalande aussi, et même jour et nuit, hein, et même au repas, ils parlaient de ses calculs, etc. Et donc ils ont prédit l'arrivée de la comète à quelques jours près, ce qui était vraiment une gageure. Elle est arrivée plus tôt que prévu d'ailleurs, et donc c'était une gageure. Mais alors, qui a communiqué ce rapport à l'Académie? C'est Clairaut. Et Clairaut, qui était un mufle, si je puis dire, n'a même pas cité Lepaute, qui a fait tous les calculs.
Oui, mais c'est pour des raisons personnelles, c'est sa femme qui était jalouse.
C'était sa maîtresse qui était jalouse.
Ah, c'est sa maîtresse, bon.
La maîtresse de Clairaut était jalouse de Nicole Reine Lepaute. Mais alors Lalande ne lui a pas pardonné, et se sont brouillés, Lalande et Clairaut, à cause de cette histoire.
Donc il y avait quand même, à l'époque, l'idée qu'une femme méritait reconnaissance pour ses travaux.
Oui. Lalande était favorable et supportée.
Donc la comète a réapparu en décembre 1758, conformément à peu près au calcul de ces trois personnes, et ça a complètement permis valider la théorie de Newton, et Descartes a été, avec ses tourbillons.
À l'époque, Descartes, en effet, était la théorie des Français en général, puisqu'il pensait que les planètes tournaient autour du Soleil, par des tourbillons. C'est un peu vague, hein. On ne savait pas des tourbillons de l'éther, quel éther était celui. Et en effet, Voltaire, qui était allé à Londres, avait été convaincu aussi de la théorie de Newton. Et Émilie du Châtelet a vraiment convaincu, en traduisant en français, à partir du latin, hein, parce que les principes étaient en latin, elle a convaincu les astronomes et les astrophysiciens français que c'était plutôt Newton et pas Descartes qui avait raison.
Françoise Combes, il y a un autre personnage féminin que je crois peu connu, Cécilia Penn-Gaposchkine, qui a publié une thèse en 1924 expliquant que les étoiles sont principalement formées d'hydrogène. Mm-hmm. En fait, dans sa thèse, elle le dit pas, mais elle le pensait quand même.
Oui.
Parce que un autre chercheur qui s'appelle Henry Russell pensait que l'idée était absurde, voilà. Que le Soleil et les étoiles devaient avoir la même composition que la Terre. Mm-hmm. Et donc, elle a été dissuadée de présenter son résultat. Et lui-même, quelques années plus tard, est arrivé à la même conclusion. Les étoiles sont faites d'hydrogène. Mm-hmm. L'a publié. En citant son nom, mais c'est quand même lui qui est considéré comme le père de l'idée.
Et voilà. C'est toujours le même principe. C'est comme on appelle l'effet Matilda. C'est-à-dire qu'en général, les femmes sont invisibilisées. Et c'est plutôt un homme qui reprend les découvertes et qui est publié à leur place.
Vous avez dit, il la cite dans son article.
Il la cite. Mais enfin, c'est vrai que tout de même, elle n'est pas reconnue comme étant la première découverte.
Alors, la précocité intellectuelle de Cécile Penn-Gaposchkine s'est manifestée dès l'école primaire. Elle a voulu mettre au point un protocole scientifique pour vérifier l'effet de la prière. Donc elle a créé deux groupes d'élèves, les uns qui ont prié pour avoir de bons résultats à leur examen, les autres qui n'ont pas prié, et elle a remarqué que le groupe qui n'avait pas prié a eu plus de succès à l'examen en question, et elle est donc devenue agnostique.
Oui, ça c'est beau comme histoire, comme anecdote.
Troisième personnage féminin, Françoise Combes, dont vous parlez, qui est moyennement connue, je dirais, Henrietta Leavitt. Qui est née en 1868 et qui est morte en 1921 d'un cancer. Elle n'était pas astronome parce que c'était
impossible.
Elle fut donc une calculatrice. Mm-hmm. Vous parlez même d'un ordinateur humain.
Voilà, exactement.
Elle faisait les calculs pour les hommes.
Exactement, les hommes ne voulaient pas faire des calculs fastidieux. En fait, ce qu'ils faisaient, ils allaient au télescope. Les femmes n'étaient pas autorisées à observer sur le télescope. Donc ils avaient des plaques photos. Et puis ensuite, pas de photos, il fallait les regarder avec des instruments, repérer avec grande précision les positions, les flux, etc., et faire des catalogues. Alors ça, c'est quelque chose de fastidieux qu'ils avaient donné à une armée de femmes qui étaient reléguées à la cave, en fait, ou au sous-sol, et qui faisaient des catalogues dans leur travail. Mais en fait, bien qu'elles soient diplômées, parce qu'en fait, on commençait à avoir des femmes diplômées au XXe siècle, elles commençaient à aller à l'université, avant c'était interdit. Donc là, elles avaient des diplômes, mais elles n'avaient pas le job équivalent à leur...
Mais le patron du labo, si je peux dire les choses ainsi, Pickering, oui, avait remarqué que les femmes calculaient mieux que les hommes.
Et oui, en plus. Mais leur salaire était bien, bien inférieur, pourtant.
Alors qu'est-ce qu'elle a découvert?
Alors là, elle aurait pu avoir le prix Nobel, tellement la découverte était fantastique. Puisqu'elle a découvert un indicateur de distance. Et en astrophysique, pour faire un progrès, il faut avoir une distance des objets. Les objets se projettent sur le ciel, on ne sait pas quelle distance ils sont. Donc elle a découvert des étoiles variables. Comme justement elle faisait un catalogue d'étoiles, elle a repéré qu'il y en avait 2000 qui étaient variables. Alors cette variabilité, elle peut être sinusoïdale, périodique, et de l'ordre de un mois, la période, quelque chose comme ça. Et donc elle avait repéré cette période, et donc avec des calculs, elle avait montré que la période était proportionnelle à la luminosité intrinsèque de l'étoile, pour celle qu'on connaissait et proche. Et donc ça, quand on a un indicateur de luminosité intrinsèque, donc en mesurant la période, on peut avoir la distance en comparant avec la luminosité apparente.
Et ce résultat a permis de comprendre l'expansion de l'univers.
Exactement, parce que jusqu'à là, on ne savait même pas que les galaxies existaient. Ce n'est qu'à partir de 1920 qu'il y a eu un grand débat dans un grand amphi aux États-Unis. Et donc, on pensait que peut-être tous les objets qu'on connaissait, les nébuleuses, on avait les nébuleuses d'Andromède, etc., c'était des objets qui étaient diffus parce que c'était un nuage, comme le nuage d'Orion. On pensait que tout était dans la Voie lactée, la bande blanche qui est dans le ciel, là, et qui finalement se révèle à être une galaxie. Mais ce mot galaxie est apparu lorsqu'on s'est aperçu qu'il y en avait d'autres, et qu'on appelait galaxie parce qu'il y a le lait Voie lactée qui arrive là-dedans. Et ensuite, Hubble a regardé des céphéides, qui sont les étoiles variables qu'avait trouvées Henrietta Leavitt.
Quand vous dites Hubble, vous parlez de l'astrophysicien,
pas le télescope.
Pas le télescope.
En effet, on a donné le nom du télescope, le nom de Hubble au télescope. Mais Edwin Hubble avait observé, avec les télescopes de Californie, qui étaient les plus grands au monde à l'époque, des céphéides, des étoiles variables, dans la nébuleuse d'Andromède, et s'aperçut qu'elle était à 2 millions d'années-lumière, donc beaucoup plus loin que la taille de la Voie lactée qui fait 100 000 années-lumière.
Quels sont les noms que vous mettriez en avant pour désigner ceux et celles qui ont découvert l'expansion de l'univers? Il y a Hubble, évidemment, il y a Bestow-Slipher.
Il y a Bestow-Slipher qui avait découvert par le spectre des galaxies, par effet Doppler. Il avait découvert que les raies étaient décalées vers le rouge, donc avec des vitesses qui s'éloignaient de nous à des vitesses de 1000, 2000 km par seconde. Et puis Henrietta Leavitt. C'est Henrietta Leavitt qui, si elle n'est pas disparue trop tôt, elle aurait pu avoir le prix Nobel. Certains astronomes ont proposé qu'elle aurait dû avoir le prix Nobel.
Hubble, notamment.
Oui, ouais. Voilà.
Elle est morte, je l'ai dit, en 1921 d'un cancer.
Voilà, et donc c'est un peu trop tôt. Peut-être qu'elle aurait pu l'avoir un peu plus tard.
On aurait pu citer l'Abélomètre aussi, qui a compris...
Exactement. Alors là, l'Abélomètre, c'est lui qui a bien compris. Parce qu'en fait, Hubble, au départ, il avait compris que la vitesse des galaxies qui s'en allaient était proportionnelle à leur distance. Mais c'est tout, il n'avait pas eu l'idée plus loin que celle de Bestow-Slipher en disant bon, c'est un effet Doppler, c'est-à-dire que les galaxies sont bien en mouvement.
Dans l'espace.
Dans l'espace, en disant elles sont décalées vers le rouge comme l'ambulance avec le son est décalée vers le son grave lorsqu'il s'en va. Eh bien, c'est l'Abélomètre qui, lui, avait fait une thèse en Belgique, en français, et là, c'est pour ça qu'elle n'a pas été tellement publiée aux États-Unis, mais il avait bien digérer les résultats d'Einstein en 1915, qui disait que l'espace pouvait se dilater. Et Einstein, justement, avait trouvé que les solutions à son équation étaient soit une explosion, une dilatation, soit une contraction, un Big Crunch ou un Big Bang. Et il avait pour cela introduit cette fameuse constante cosmologique.
On va en parler.
Donc là, l'Abélomètre a fait un lien entre les résultats de Hubble, parce qu'il était parti en postdoc en Californie pour bien voir les résultats de Hubble. Donc il avait les deux un peu, ce qu'avait trouvé Einstein et Hubble.
Il avait la théorie et les observations.
Voilà. Et donc il a fait le lien et il a dit, bon, mais cette vitesse, c'est la dilatation de l'espace. Et donc les galaxies ne bougent pas.
Elles sont immobiles dans un espace qui gonfle.
Dans un espace qui gonfle. Alors, et le redshift, enfin le décalage vers le rouge, pardon, ce décalage vers le rouge est dû au fait que la lumière, le photon, a une longueur d'onde qui, à partir de longueur d'onde bleue, c'est-à-dire petite, eh bien, se dilate comme l'espace et devient rouge. Et donc, le décalage vers le rouge, c'est la dilatation de l'espace aussi.
Donc ça, c'est le début des années 30.
Voilà.
Tout le monde est d'accord pour dire que l'univers est en expansion. Et dans un des chapitres de votre livre, François Scombe, vous expliquez pourquoi on a longtemps cru que le Soleil était au centre de la Voie lactée, ce qui est faux.
Ce qui est faux. Encore une fois, c'est un peu comme la Terre était au centre de l'univers avant Copernic.
Après, c'était le Soleil.
Après, c'était le Soleil. Alors, pourquoi le Soleil était au centre de la Voie lactée? Il y avait Herschel qui avait regardé les étoiles, il regardait la luminosité des étoiles, et il pensait qu'en première approximation, on pouvait penser que toutes les étoiles avaient la même luminosité. Première approximation, alors zéro, ce qui n'est pas vrai, mais enfin, admettons. Statistiquement, elles ont toutes la même luminosité. Et donc, celles qui sont le plus faibles, sont celles qui sont le plus loin. Ok, ça décroît comme 1 sur la distance au carré. Mais il avait oublié de considérer qu'il y avait de la poussière dans la Voie lactée. Donc autour du Soleil, il y a plein de poussière qui nous a obscurci la lumière des étoiles lointaines. Donc si elles étaient très faibles en luminosité, c'était à cause de la poussière et non pas la distance. Donc finalement, le Soleil, on paraissait être au centre, parce que dès qu'on va assez loin, on a une quantité de poussière qui croît. Et donc, autour de nous, il y avait un cercle qui était obscurci, et donc ils croyaient que le centre était le Soleil.
Alors, on a prononcé le nom, on va y revenir, la constante cosmologique, introduite par Einstein en 1917, quand il comprend qu'il n'y a pas de solution stationnaire à son équation. Donc il rajoute un terme, la constante cosmologique, qui permet à l'univers d'être stationnaire.
Voilà.
Et puis en 1930, il se rend compte que l'univers n'est pas stationnaire, il est en expansion, il abandonne sa constante. Et en 1947, il écrit à l'Abélomètre, l'introduction de cette constante implique une renonciation considérable à la simplicité de la théorie. Depuis que j'ai introduit ce terme, j'ai toujours eu mauvaise conscience, je ne peux pas croire qu'une chose si laide pourrait être réalisé dans la nature. Et le maître lui répond, l'histoire de la science fournit beaucoup de cas de découvertes qui ont été faites pour des raisons qui ne sont plus considérées comme satisfaisantes. Il se peut que la découverte de la constante cosmologique soit un tel cas.
Oui.
Donc la raison était mauvaise, mais oui, peut-être qu'à la fin, on gagne.
Et oui, on va voir que l'avenir a donné raison à Lemaître, puisque maintenant, on a une retour en flèche de la constante cosmologique.
Pour expliquer quoi?
Pour expliquer l'accélération de l'expansion qu'on a découvert en 1998, donc c'est plus récent. Alors comment on l'a fait cette découverte de... En fait, jusqu'à 1998, on s'est basé uniquement sur la loi de Hubble-Lemaître pour avoir la distance des galaxies. Donc leur vitesse nous donnait leur distance. Et donc on pensait que comme il n'y avait que de la matière dans l'univers, la matière est attractive par sa gravité, et donc elle devait décélérer l'expansion. Et puis là, on s'est aperçu avec d'autres indicateurs de distance qui allaient plus loin que les céphéides de Henrietta Leavitt. C'était des supernovae de type 1A, bon, particulière, on ne va pas rentrer dans le détail, mais ces supernovae sont beaucoup plus brillantes que les supernovae de type 2, de type du crabe là, qui explosent.
On les voit même quand elles sont très loin.
Voilà, on les voit quand elles sont très loin, donc ça nous permet d'avoir un indicateur de distance qui va au-delà de la moitié de l'âge de l'univers. Et c'est là qu'on a compris que tout d'un coup, en observant un grand nombre de ces supernovae, que les galaxies étaient beaucoup plus loin que celle, que la distance qu'on avait attendue avec la constante de Hubble-Lemaître.
Et alors ?
Alors ça voulait dire que l'expansion s'accélère, et de façon exponentielle bientôt.
Mais il y a quelques semaines, on a fait une émission ici même sur l'énergie noire, donc le moteur de l'accélération.
Voilà.
Et on a parlé des résultats d'une collaboration d'ESI qui laisse entendre sur un petit échantillon, quelques millions de galaxies, que peut-être cette énergie noire serait variable au cours du temps.
Voilà,
ce qui exclurait la constante cosmologique.
Voilà.
Du coup.
Jusqu'à présent, avant d'ESI, tous les résultats étaient compatibles avec une constante cosmologique. Et là, on regarde avec d'ESI, on regarde dans le passé. Ils ont 11 millions de galaxies à peu près en ce moment. Et ils peuvent regarder quelle était leur distance précise et regarder si comment était l'accélération de l'expansion dans le passé. Et peut-être que, c'est un résultat préliminaire, il faut bien dire quand même, peut-être que ça sort de la constante cosmologique et aurait un aspect dynamique. Donc ça veut dire qu'il faudrait inventer un cinquième élément, une quintessence, quelque chose qui varie. Mais pour l'instant, rien n'est moins sûr et peut-être on attendra le satellite Euclide qui a été lancé en 2023. Et qui va regarder des milliards de galaxies. Donc on aura une précision statistique bien meilleure, et on pourra infirmer ou confirmer ce résultat de DESI.
Et Françoise Combe, entre le moment où vous avez soutenu votre thèse, et aujourd'hui, énormément de découvertes, oui. Mais quelles sont les découvertes qui vous ont le plus surprise, qui remettent en cause ?
Cette accélération de l'expansion a surpris tout le monde, moi-même en particulier, mais on s'y attendait pas, on s'attendait vraiment à une décélération. Et inventer une énergie noire qui aujourd'hui fait 70% du contenu de l'univers, quand même, c'est pas rien. Donc on avait des débats à l'époque.
Vous voulez dire qu'il y a des découvertes qui augmentent l'ignorance ?
Eh ben, on a supprimé une certaine ignorance. On ignorait complètement.
Non, on comprend quelque chose qui remet en cause des choses qu'on croyait sûres.
Voilà,
donc,
c'est ça.
D'une certaine façon, on ouvre des portes pour de nouveaux problèmes.
Voilà, on ouvre des portes, mais on en résout aussi parce que là, il y avait un gros problème sur l'âge de l'univers, par exemple. Et on avait des étoiles qui étaient plus vieilles que l'âge de l'univers. Il y avait un petit peu. Donc là, on a résolu l'équation parce qu'en fait...
La constante cosmologique, elle augmente l'âge de l'univers.
Elle augmente l'âge de l'univers. Parce qu'en fait, elle a une accélération dans le futur, mais dans le passé, ça veut dire qu'on est obligé d'aller beaucoup plus loin que le temps zéro. Donc finalement, l'âge est 13,8 milliards d'années, mais il était plus petit avant.
Ça ressemble quand même à de l'ajustement de... De paramètres.
Non, mais il y avait un problème avant quand même. On n'avait pas tout résolu. Le modèle n'était pas vraiment complet. Et donc c'est cette constante cosmologique qui a résolu des problèmes. Bon, il y en a ouvert d'autres, mais il en a quand même résolu.
Françoise Combe, à part cette découverte, l'accélération, l'expansion de l'univers, avant il y a eu quand même des choses extraordinaires.
Ah oui, mais il y avait d'abord ce Big Bang là qu'on connaît aujourd'hui, dont justement le nom a été fait par Fred Hoyle. En 1945, il voulait se moquer de cette explosion initiale, Big Bang, etc. Et on n'était pas encore accepté. Donc en 1965, il y a quand même la fameuse découverte du fond cosmologique. Ça, c'est aussi une énorme découverte.
Qui avait été prédit par Gamow.
Voilà, prédit par Gamow. Mais il ne savait pas à quelle température allait se trouver ce fond cosmologique.
Il avait dit 5 Kelvin, je crois, non ?
50, non, c'est pas 50.
Moi, j'ai lu 5, mais bon.
Il n'y avait aucune façon de le voir, en fait. Et donc là, tout d'un coup, par hasard, Penzias et Wilson l'ont découvert à Bell Labs.
En 64.
En 64, et ils ont eu le prix Nobel en 78, je crois. Et il faisait 2,7 degrés Kelvin.
Oui, mais Françoise Combe, vous dites dans votre livre... que ce fond diffus cosmologique, on aurait pu le découvrir avant.
Et oui. D'ailleurs, je parlais avec James Lequeux à Nancy et ils avaient découvert, enfin bon, c'était un petit bruit, hein, quand même, un petit bruit, mais ils n'avaient pas cru à ce bruit, quoi, en fait. Et puis, c'est vraiment parce que eux, ils regardaient avec un télescope qui est le télescope de Nancy, et il n'était pas fait pour ça, et donc, ils regardaient un petit peu, c'était en centimétrique. Donc là, il est plutôt en millimétrique, le bruit. Mais enfin, là, ce que Benzas et Wilson ont fait, c'est qu'ils voulaient avoir des résultats sur la possibilité d'avoir des télécommunications. Donc on aurait eu un satellite qui aurait réfléchi ces ondes millimétriques qu'on ne connaissait pas. Donc ils ont conçu un cornet exactement pour détecter ces ondes-là. Et donc, au lieu de voir si c'était possible de faire des télécoms, ils ont vu un bruit énorme. Et en effet, le bruit à cette... longueur d'onde-là est dominée par le fond cosmologique. C'est curieux, le Big Bang domine.
Mais ils n'étaient pas au courant, eux, que ce bruit était prédit par des théoriciens.
Et voilà, ils n'étaient pas au courant. Ils sont allés à Princeton voir un petit peu Peebles, qui disait, oh là là, on le prédisait, et finalement, ils ont trouvé avant nous.
Donc Gamow aurait pu avoir le prix Nobel.
Ah oui.
Il était mort en 1978, à cause de... Il est mort. Ses dernières paroles, paraît-il, ont été, finalement, mon foie paie l'addition.
Eh oui, si vous buvez un peu trop.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont marqué dans votre parcours?
Donc, il y a ce fond.
Au sens de la surprise.
Parce que,
hein.
Oui, parce que le fond, elle a énormément. On a eu plusieurs satellites, hein, comme Kobe, WMAP et Planck récemment, qui ont vraiment révolutionné un peu ce domaine-là et qui ont permis de voir les fluctuations cosmologiques qui donnent les galaxies. Mmh. Alors, à des niveaux plus modeste, parce que là, ça, c'est vraiment le destin de l'univers. On peut penser aux galaxies. Donc, on avait les galaxies en 1920, mais on ne connaissait pas grand-chose. Hein. Moi, je sais que quand je suis arrivée dans les années 80, il y avait un livre de Peker Schatzman. Et dans ce livre, il y avait une ou deux pages sur les galaxies, point. Tout le reste, c'est les étoiles. On ne connaissait rien sur les galaxies. Et donc, je me suis mis à regarder les galaxies, à faire des interactions entre galaxies qu'on a découvert. On a découvert aussi quelque chose de fantastique. Dans le milieu interstellaire, il y avait des molécules. Ça, c'était dans les années 80 aussi. J'ai participé à l'observation, la chasse aux molécules. Pourquoi on pensait qu'il n'y avait pas de molécules? C'est que c'est un milieu très diffus, quelques particules par centimètre cube au lieu de 10 puissance 23 dans cet air qui nous entoure là. Et donc, on pensait que dans le vide total, les molécules n'allaient pas se rencontrer. Et en plus, ce serait...
Il n'y a pas assez de rencontres pour fabriquer des couples.
Des molécules. Et en fait, on a une chimie très riche, une chimie organique, où on voit, je sais pas, l'alcool éthylique, le méthanol, l'acétone, toutes ces molécules se trouvent. Et on pense que c'est vraiment l'origine des molécules qui vont donner lieu aux protéines et à la vie, viennent du milieu interstellaire. Donc tout d'un coup, il y a une course à toutes les molécules. On en a découvert 120, là. Et à chaque fois, on pouvait faire une publication pour une nouvelle molécule à détecter. Maintenant, on n'en fait plus parce qu'il y en a trop. Mais au début, c'était les premières molécules et on a détecté plein.
Vous écoutez la conversation scientifique avec Françoise Combes. Alors, quand est-ce que... Parce que vous avez beaucoup travaillé aussi sur un autre grand problème de la cosmologie, qu'on appelle la matière noire.
Oui.
Le problème de la dynamique des galaxies, disons. Quand est-ce que vous avez entendu parler pour la première fois de ce problème et quand est-ce qu'il vous a semblé être un problème vraiment sérieux?
Oui, ça c'est une bonne question parce que on s'est pas découvert à une date précise en fait. C'est le problème, c'est que ça a été émis un petit peu d'abord par Zwicky, hein,
mais
personne
n'a cru. Ouais, lui, il parlait de matière sombre.
Oui, mais c'était la matière noire en fait, c'est pareil.
Mais hein. Il pensait qu'elle était constituée de particules déjà connues.
Ah ben, tout le monde, jusqu'en 1985, personne n'avait pensé à des particules exotiques. Hein. Tout le monde, même... Il y avait James Hort, qui regardait les étoiles perpendiculairement au plan. Il voyait qu'il y avait beaucoup plus de masse. C'était la masse manquante. Et on pensait que c'était de la matière ordinaire, toute cette masse manquante, hein, jusqu'en 1985. Mmh. On a compris plus tard qu'en effet, le nombre de matières ordinaires ne pouvait être que 5%. D'ailleurs, dans la nucléosynthèse primordiale, c'est ça aussi. Et que pour former les galaxies, il faut aussi qu'il y ait de la matière exotique. Pourquoi? Parce que au départ de l'univers, la matière est liée avec la lumière, parce qu'en fait, elle est ionisée. On a des particules ionisées, protons, électrons, et elles sont très très couplées à la lumière. Donc jusqu'à 380 000 ans après le Big Bang, la matière ordinaire ne peut pas s'effondrer, former des galaxies. Et après, il est trop tard. Parce qu'en fait, il y a de l'expansion qui empêche la gravité. Donc si on veut qu'il y ait des galaxies aujourd'hui, il faut qu'il y ait la masse manquante qui est faite de particules qui n'interagissent pas avec la lumière. Donc c'est pas des particules ordinaires, c'est des particules exotiques. On ne sait toujours pas de quoi elles sont faites, mais il les faut avec en grande quantité, 5 fois plus que de matière ordinaire, pour pouvoir effondrer cette masse bien avant que la matière ordinaire puisse s'effondrer.
Vous êtes en train de nous dire, Françoise Combes, qu'il y ait d'abord des galaxies de matière noire.
Exactement.
Pour qu'il y ait des galaxies de matière ordinaire.
Exactement. Quand on dit est-ce que ce sont les étoiles ou les galaxies qui se forment en premier, moi je réponds toujours que ce sont les galaxies, puisqu'elles forment des berceaux, enfin des puits de potentiel de matière noire, des berceaux, dans lesquels vont tomber la matière ordinaire pour former des étoiles. Donc c'est les galaxies qui arrivent avant les étoiles.
Mais alors, qu'est-ce qui se passera, Françoise Combes, si on ne détecte aucune de particules qui soient candidates pour la matière noire?
Ah oui, on arrive bientôt à cette extrémité, si je puis dire, puisqu'on a déjà éliminé le principal candidat qui était les particules supersymétriques, le neutralino, etc. Et si on n'y arrive pas, même Zwicky avait proposé que peut-être que c'était la gravité qu'il fallait changer, même à l'époque, parce qu'en fait, ce qu'on voit, cette matière manquante, elle n'arrive que à cause de la gravité. On la détecte par la gravité, c'est-à-dire que dans les amas de galaxies, il y a un équilibre entre la matière et puis l'énergie cinétique. Pour les galaxies qui tournent, c'est pareil, on a des grandes vitesses de rotation qui ne peuvent s'expliquer que s'il manque de la masse. Maintenant, si la gravité est changée, on peut très bien se passer de matière noire et au lieu d'avoir une loi qui va en 1 sur R2, on a une loi en 1 sur R et ça marche très bien.
Alors, quel est votre pronostic? Si vous deviez parier.
Agnostic pour l'instant. Pour l'instant, on travaille sur les deux, comme ça on est sûr de ne pas se tromper.
Alors, il y a un autre sujet qui occupe une partie passionnante de votre livre, Françoise Combes, c'est la question de l'inflation. Mm-hmm. Parce que l'univers a deux propriétés bizarres. D'abord, il est plat comme une limande à grande échelle. Alors, plat, ça ne veut pas dire plan, ça veut dire qu'il n'y a pas de courbure généralisée. Et il est homogène en température.
Voilà.
Et pourquoi c'est un problème, ça?
Alors, c'est un problème parce que on a un horizon. Alors, qu'est-ce que c'est que l'horizon? Chaque observateur, aujourd'hui, est entouré d'une sphère. Et il ne verra que dans cet horizon observable. Alors, la sphère, le rayon de la sphère, c'est la distance qu'a parcouru la lumière à partir du Big Bang jusqu'à aujourd'hui. Alors, en temps-lumière, c'est 13,8 milliards d'années, mais évidemment, comme l'univers est en expansion, on peut dire que notre horizon va jusqu'à 43 millions d'années-lumière, d'années-lumière. Et en fait, il y a peut-être des galaxies au-delà de notre horizon. Bien sûr, il y en a certainement, mais elles n'ont pas pu nous envoyer de la lumière. Donc c'est pour ça qu'on a un horizon observable. C'est pas une limite physique, c'est juste une limite virtuelle qui fait que toutes les galaxies au-delà n'ont pas pu nous envoyer des signaux. Donc cet horizon, 380 000 ans après le Big Bang, il est tout petit, puisque c'est la lumière a pu parcourir que 380 000 années-lumière. Et à ce moment-là, quand on regarde tout le ciel, par exemple avec le satellite Planck, qui est le ciel, le fond cosmologique, eh bien, l'horizon fait 1 degré. Donc on a 40 000 horizons dans cette carte.
1 degré, là, vous parlez de l'angle, hein, pas de la température.
1 degré d'angle. Très juste. 1 degré d'angle, et donc on a beaucoup d'horizons, 40 000 horizons, mais ils sont tous à la même température, mais à 10-5 près, hein, c'est une très grande précision. Et ça paraît impossible, puisqu'il n'y a pas eu de concertation entre ces particules d'un horizon à l'autre. La lumière n'a pas pu être propagée, donc c'est impossible. Et c'est ça, ce problème d'horizon, qui fait qu'il y a un énorme problème dans le modèle s'il n'y a pas d'inflation.
Alors l'inflation, c'est quoi?
Alors, l'inflation, ça a été inventé par Alan Guth et Linde en 1981, donc c'est une théorie qui a plus de 40 ans. Eh bien, on suppose que, c'est encore une hypothèse, on suppose que l'univers s'est passé en une expansion, mais une expansion très très rapide par rapport à l'expansion.
Ah, plus que rapide, hein,
c'est... Oui. En 10-32 secondes.
On augmente la taille d'un facteur 10 puissance 50.
35
seulement.
35, ça suffit.
Mais c'est plus que rapide, c'est une espèce de... Ah,
c'est une énorme explosion.
C'est-à-dire que c'est là que l'univers a acquis sa taille.
Exactement.
Et depuis, il gonfle tranquillement.
Voilà. Et puis, consentiment. Mais surtout, les petites fluctuations du vide qu'il y avait avant la naissance de notre univers, parce qu'il n'y avait que du vide, sans particules, sans rien, sans énergie, ben, il y avait un vide quantique qui, normalement, a des fluctuations. Et ça, on le sait, parce qu'on a vérifié en laboratoire que le vide quantique avait des fluctuations d'énergie. Et ces fluctuations ont pu grossir à des tailles macroscopiques par cette inflation. Alors, ça résout le problème de l'horizon, parce qu'à ce moment-là, tous les horizons-là ne sont pas indépendants. Ils viennent de la même partie de l'univers. Donc on résout ça.
Et là, on résout la question de l'homogénéité.
Voilà.
Mais pas la platitude.
Ah si, la platitude aussi. Puisque, en fait, quand vous avez une sphère, vous l'augmentez d'épaisseur de puissance 30.
Quand on est sur un ballon et si on ne voit pas loin, on a l'impression qu'il est plat.
Voilà, on est dans le plan tangent. Donc, comme il est grossi de puissance 35, évidemment, on est sur le plan tangent. Donc, on est plat.
Donc, en fait, l'univers à grande échelle serait courbé.
Peut-être.
Mais on ne le voit pas.
Voilà.
Bon. Est-ce qu'il y a des moyens de tester cette hypothèse, François Scombe?
Oui, il y a des moyens. Et en effet, on s'attend. Il y a des prédictions qui sont faites par la théorie de l'inflation. C'est-à-dire que l'inflation est tellement énorme. C'est une explosion formidable qui a perturbé l'espace. Et quand on perturbe l'espace, on a des ondes gravitationnelles, ondes de dilatation de l'espace. On s'attend à des ondes énormes, très importantes, de grande longueur d'onde. Très particulière, et donc on espère détecter ces ondes gravitationnelles primordiales.
Avec quel genre d'instrument?
Alors avec des pulsars.
C'est pas des instruments.
C'est des instruments naturels. C'est des instruments naturels parce qu'on a des pulsars un peu partout, comme des jalons. Bon, pour l'instant, on en a 200 dans la Voie lactée, mais avec le SKA, qui est le Square Kilometer Array, qui va être bientôt construit. En fait, il va être opérationnel en 2028. Donc il est en train d'être construit, on aura 20 000 pulsars. Alors vous imaginez 20 000 pulsars, ça fait une mire comme ça dans tout le ciel. Et donc ces pulsars millisecondes, donc ils tournent 1000 fois par seconde, avec une période stable encore plus que vos montres pulsars.
C'est des métronomes.
C'est des métronomes à 10 puissance moins 15, c'est-à-dire 15 chiffres significatifs après la virgule. Et donc si entre le pulsar et nous, il y a des ondes gravitationnelles, on conçoit que le photon il va passer... Il est dans l'espace, donc il va être modulé par cette onde. On aura des modulations dans plusieurs directions du ciel, on saura s'il y a des ondes gravitationnelles.
Donc elles vont provoquer une sorte de modulation de fréquence?
Voilà, exactement. Une modulation de la période du pulsar, qui au lieu d'être millisecondes, sera millisecondes à 10-15 près, mais il y aura une petite modulation. C'est très petit, ces ondes gravitationnelles.
Et
mais
on pourrait, grâce à ça, avoir la preuve que la source de tout cela, c'est l'inflation?
Oui, parce qu'on prévoit une certaine longueur d'onde. Quand on sait qu'on a détecté depuis 2015 les ondes gravitationnelles qui viennent de la fusion de deux étoiles neutrons, c'est très rapide, ça. C'est les étoiles neutrons qui tombent l'une sur les autres en quelques minutes. Les trous noirs, un peu plus gros, c'est un quart d'heure, peut-être. Et puis ensuite, plus gros, les trous noirs de masse intermédiaire, ce sera peut-être LISA qui va regarder ça, parce que ce sera des millions de kilomètres, la longueur d'onde. Pour les longueurs d'onde au sol, Vigo, Virgo, c'est plutôt des milliers de kilomètres. Et puis ensuite, les longueurs d'onde que l'on cherche, à la fois pour les fusions de trous noirs supermassifs ou les ondes gravitationnelles primordiales, ce sera des années-lumière. On ne peut pas avoir des télescopes LISA distants d'années-lumière, ça c'est pas encore faisable. Donc par contre, les pulsars, oui, ils sont distants de plusieurs années-lumière. Donc on a un instrument naturel qui permet de faire, de détecter les ondes gravitationnelles de longueurs d'onde d'années-lumière.
François Scombe, dans votre livre « Petite histoire de la cosmologie », vous parlez d'une discipline, d'une spécialité dont j'ai l'impression qu'elle est assez récente, qui s'appelle la gastrophysique.
Oui.
C'est quoi?
Alors c'est que, en fait, on a le gaz dans les galaxies qui introduit beaucoup de complexité. Autrefois, on faisait des simulations d'étoiles. Les galaxies que l'on a aujourd'hui, comme la Voie lactée, il y a 95% d'étoiles et 5% de gaz, en tout cas dans la matière visible. Et donc, il suffisait de faire... Alors, les étoiles, c'est un milieu sans collision. Donc, on met des points, et on le fait évoluer par gravité, et c'est tout. Tout le monde est d'accord, quel que soit le modèle, on a la gravité, ça change pas. C'est juste la résolution qui augmente, le nombre d'étoiles, etc. Maintenant, si on met du gaz interstellaire, alors, ce gaz est dissipatif. Il va former des étoiles, il va avoir des phénomènes de feedback, c'est-à-dire, on va donner de l'énergie qui n'est pas gravitationnelle, qui est autre chose, l'énergie nucléaire, etc. Et donc, tout cela introduit de la physique un petit peu chaotique. On appelle ça gastrophysique, parce que c'est le gaz, l'astrophysique du gaz. Et là, ça devient tellement complexe que chacun qui fait un modèle prend des recettes pour former des étoiles, parce qu'en fait, on n'arrive pas dans une galaxie à avoir assez de résolution pour avoir la formation d'étoiles. Donc, on prend des recettes, on dit, bon, à partir de certaine densité, on forme une étoile, etc. Et puis, l'énergie qu'elle... on voit dans le milieu interstellaire, on ne sait pas laquelle, donc on prend 10%, 20%. Et à chaque fois, tous les groupes qui font des simulations, et ben, ils ont des résultats différents. Avant, avec les étoiles, c'était...
Donc on essaie de marier la physique des gaz à l'astrophysique?
Voilà,
c'est un peu ça.
Exactement.
Est-ce que les résultats obtenus depuis le jour de Noël 2021, quand on a lancé le JWST, le James Webb Télescope, il y a beaucoup de résultats qui sont déjà arrivés, il y a des synthèses magnifiques qui sont faites. Est-ce que là, il y a eu des surprises? Est-ce qu'il y a des choses qui sont remises en cause?
Oui, oui, il y a des surprises, puisqu'on s'attendait à avoir un certain nombre de galaxies en fonction du temps. On l'avait un petit peu avec le télescope Hubble, mais le télescope Hubble n'allait pas aussi loin dans le temps parce qu'il s'arrêtait à l'infrarouge très proche. Et le James Webb, sa particularité d'avoir l'infrarouge moyen d'aller beaucoup dans le rouge. Alors comme avec l'expansion, les galaxies, la lumière des galaxies décalée vers le rouge, il fallait aller vers ces longueurs d'onde pour les voir. Et en plus,
donc on voit plus profondément dans le ciel.
Plus profondément, on voit plus loin vers le Big Bang. Mmh. Et en plus, on est plus sensible parce qu'il fait 6 mètres de diamètre alors que le télescope Hubble faisait 2 mètres.
Et il marche remarquablement.
Ah, il marche. Enfin, et avant, notre Hubble était myope. Il a fallu corriger,
il
met des lunettes. Oui. Enfin, il vaut mieux ne pas être myope au départ plutôt que d'avoir des lunettes.
Parce qu'il est loin.
Oui. Enfin, il est dans l'infrarouge, c'est pour ça qu'il fallait aller loin, parce que la chaleur du soleil nous fait beaucoup de bruit.
Donc il est installé à un point de Lagrange.
Oui, c'est ça, à 1,5 million de kilomètres de nous.
Et alors, quels sont les résultats qui...
Alors, on a découvert énormément plus de galaxies que prévu, massives en plus, dès le départ. Et en plus, dans chaque galaxie, on sait qu'il y a un trou noir supermassif, mais on pensait qu'au début, il y avait des petits trous noirs qui ensuite allaient fusionner, et donner des gros trous noirs aujourd'hui. Mais on voit des gros trous noirs dès le début, des milliards de masses solaires des trous noirs. Donc là, il y a un problème à la fois de former les galaxies très massives et de former leurs trous noirs très massifs.
Est-ce que ça remet en cause alors, le modèle standard? Est-ce que ça percute la question de la matière noire? Est-ce que ça percute?
C'est possible, et certains l'ont dit. Mais on en est, enfin, c'est un peu trop tôt encore pour le dire, parce que on a beaucoup de jeux avec cette gastrophysique dont on vient de parler. Donc, on peut faire varier un petit paramètre. Tout d'un coup, on va former plus d'étoiles que prévu, et on n'aura pas de phénomène feedback. C'est-à-dire qu'on n'aura pas d'énergie qui se réinjecte. C'est un petit peu ad hoc, vous allez me dire. Mais, on peut essayer de tirer un peu le modèle dans tous les sens pour qu'on n'ait pas besoin de remettre en cause le modèle standard et donc le modèle matière noire. Mais lorsqu'on aura essayé de tous les côtés, et si on n'y arrive pas, à ce moment-là, on pourra remettre en cause, parce qu'en effet, un modèle de gravité modifié pourrait résoudre ce problème.
Mais est-ce que l'astrophysique contemporaine est un monde unifié, ou est-ce qu'il y a des écoles de pensée très différentes? Il y a des querelles?
Je pense qu'il n'y a pas de querelles, parce qu'il y a des faits. Au début, il y avait énormément de querelles en cosmologie, parce qu'on n'avait rien observé. Donc on faisait beaucoup de modèles, mais avant le Planck, les Celtops comme Planck, Kobe, WMAP, on n'avait pas toute cette cartographie du fond cosmologique qui nous a apporté énormément de précision sur la cosmologie. Donc on pouvait faire une hypothèse, il y avait des écoles. Maintenant, je pense que...
Il y a tellement de données
qu'on peut
pas... Peut-être
trop,
non ?
On n'a jamais trop de données.
Non, mais est-ce que c'est une question naïve, mais comme vous le savez, le prix Nobel de physique a été donné en 2024 à des gens qui ne sont pas vraiment physiciens, qui sont des inventeurs de l'IA, de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pensez que ça peut trancher la question, ou en tout cas aider à la résoudre?
Ben, ça aide à la résoudre, parce que l'IA, pour moi, c'est un outil. C'est un outil qui est d'abord, on voit qu'on a des millions et des milliards maintenant de galaxies, donc c'est sûr qu'on va pas faire comme Hubble, qui en avait une centaine, et puis regarder une à une à la main. Quand on a un milliard de galaxies, il faut absolument avoir une IA pour les détecter, savoir où elles sont déjà, parce que l'univers est un volume énorme, assez longueur d'onde là, et donc il faut savoir où elles sont déjà. Donc l'IA nous apprend où elles sont, ensuite nous apprend à les classifier, à les distinguer des étoiles, etc., et savoir où elles sont, les spectres, etc. Donc déjà, il y a le catalogage, et ensuite, on va pouvoir aussi avoir un aspect découvreur de l'IA. Donc ça, on va essayer d'avoir des algorithmes qui vont nous découvrir quelque chose. On va tester, évidemment, on va pas le croire argent comptant, mais en fait, ça va être un effet heuristique. Et ça arrive déjà. On arrive à cette IA qui aide l'astronome à trouver les choses. Mais évidemment, il ne remplace pas l'astronome.
Pour l'instant. Il y a un autre télescope spatial dont on parle beaucoup et dont on va certainement encore plus parler dans quelques mois, quelques années. C'est Euclide, qui est installé dans le ciel pas très loin du James Webb, au même point de Lagrange. Qu'est-ce qu'on attend de lui? Alors, je sais que vous allez parler à nouveau d'énergie noire, mais lui va étudier beaucoup plus de galaxies que des X et des milliards.
Voilà. En fait, pourquoi? Parce que le Hubble, même le James Webb, c'est un des télescopes qui regarde des petites portions du ciel très profondes. Et le Hubble, même en 35 ans, puisqu'on fête les 35 ans cette année, il n'a regardé que quelques très petites portions du ciel. Et Euclide, sa particularité, il n'a pas beaucoup plus de taille que Hubble, en fait même moins, mais il va regarder 15 000 degrés carrés, c'est-à-dire pratiquement tout le ciel observable, puisqu'il ne faut pas regarder dans la Voie lactée qui nous qui nous bouche le champ de vue. Mais donc, il regarde tout ce qui est observable, et il aura 10 milliards de galaxies, peut-être. Donc, bien plus que Daisy, qui en a 11 millions. Et donc, pourquoi on a besoin de tant de galaxies? C'est que on va regarder à des différentes époques, et on va savoir quelles sont les structures qui sont plus ou moins stables, qui proviennent du fond cosmologique et qui ont des tailles caractéristiques qui sont les ondes oscillations harmoniques, en fait, oscillations acoustiques de la matière ordinaire. Et donc ça va nous donner une échelle caractéristique en fonction du temps. Donc on aura la loi d'expansion de l'univers. À partir de quand elle est accélérée et quelle est sa forme d'accélération?
Quel est votre pari?
Ben, j'en sais rien du tout.
Vous êtes encore agnostique?
Agnostique, voilà.
Mais à chaque fois qu'il y a un nouvel instrument de forte capacité qui est mis en service, on voit qu'il y a des choses qui bougent, qui obligent le modèle, standard en l'occurrence, à se modifier, à s'adapter. Mm-hmm. Est-ce que vous pensez qu'après échéance, ce modèle va se stabiliser? Quand on aura étudié des milliards de...
C'est une question, mais je ferai pas la stupidité de dire, comme certains astronomes l'ont fait, on a tout découvert et puis on sait tout maintenant, parce qu'à chaque fois, ils se sont trompés. Donc, sans doute, comme justement ce qu'on va découvrir qui est surprenant, on ne sait pas du tout de quoi il s'agit, sinon ce serait pas surprenant, eh bien, on est un petit peu en manque pour savoir ce qu'on va découvrir. Si vraiment on extrapole ce qu'on sait, évidemment... on ne va pas découvrir grand-chose, mais je pense que ça ne va pas être le cas. On va découvrir des tas de choses différentes de ce qu'on attend.
J'ai une question, Françoise Combes, qui est liée à votre fonction de présidente de l'Académie des sciences. Je ne peux pas m'empêcher de vous demander en quoi ce qui se passe aux États-Unis a un effet ou pas sur vos programmes. Est-ce que ce qui se passe aux États-Unis vous inquiète? Est-ce qu'il y a des collaborations qui sont menacées?
Oui, il y a énormément de choses qui ont été démantelées. Par exemple, dans le milieu interstellaire, on a des molécules, on se fie au calcul fait par le National Bureau of Standards, le NIST, qui nous donnait la fréquence de molécules qui ne sont pas sur Terre, hein, c'est des molécules d'intérêt astrophysique qui se forment beaucoup dans le milieu interstellaire. Et donc ce bureau, depuis 120 ans, nous donnait avec précision des fréquences, mais aussi des sections efficaces de collision, de manière à faire de la chimie interstellaire, etc. Et il a été complètement démantelé. Complètement.
Mais quel est l'argument? Parce que ce ne sont pas des vérités scientifiques qui dérangent.
Eh bien, en fait, il pensait que c'était complètement inutile. En fait, la NSF, qui est toute l'équivalent du CNRS français, a été coupée d'un facteur 2.
Un budget.
La NASA aussi. Donc tout ça, pourtant, il n'y a pas que le climat. La santé, les vaccins, etc., ils sont très focalisés là-dessus, mais enfin, quand même, toutes les universités sont touchées. On a vu les coupes budgétaires assez impressionnantes. Donc ça nous fait peur, en effet, parce que ils sont en train de détruire la recherche aux États-Unis, qui est la meilleure du monde actuellement, qui a le plus de budget, qui a une collaboration avec nous. On sait bien que le James Webb, il est à la fois en collaboration avec l'Europe, qui est cette fois-ci minoritaire. Par contre, sur Euclide, c'est l'Europe qui est majoritaire et les États-Unis qui participent aussi. Donc, tous les satellites qu'on envoie sont en collaboration internationale, les États-Unis et les télescopes au sol, ALMA, le SKA, enfin, etc. Tout ça est mondial maintenant.
Est-ce que vous comprenez l'argument politique, l'intérêt qu'il y a à faire ce genre de choses?
Eh bien, je pense que l'intérêt, c'est qu'ils veulent faire des économies. Ils veulent. Les États-Unis ont une dette formidable, encore plus grande que la nôtre, je pense. Et donc, ils veulent retrouver. Une certaine autonomie, un certain équilibre budgétaire, donc il faut faire des économies partout. Donc les fonctionnaires sont virés par milliers. On peut se demander à quoi ils sont utiles. Donc partout, ils essaient de faire l'économie. Donc il y avait un certain monsieur Musk qui était un ministre de la rigueur budgétaire qui devait couper un petit peu comme à la tronçonneuse, un petit peu partout.
Oui, mais ils sont très fans de technologie. Alors, la technologie n'est pas complètement autonome par rapport à la science.
Ils ne se rendent pas compte que la recherche fondamentale est nécessaire pour ensuite faire de la recherche appliquée et technologique. Donc, ils ne coupent pas tout ce qui est AI, tout ce qui est technologie, il n'est pas coupé.
Alors, revenons, si vous l'avez, si vous êtes d'accord, Françoise Combes, à l'univers. Récemment, dans la revue Nature, a paru un article expliquant que une particule de très très haute énergie, sans doute un neutrino, a été détectée au fond de la mer Méditerranée, au large de la Sicile, par une expérience qui s'appelle KM3Net.
Oui.
Et c'est un neutrino qui a autant d'énergie qu'une balle de ping-pong.
Oui, oui, c'est
qui a sans
énorme.
Doute été produit ouais. par un mécanisme non identifié, mais certainement très très violent.
Mm-hmm.
Donc c'est-à-dire que grâce aux détecteurs de rayonnement et de particules mm-hmm. qu'on a aujourd'hui, on se rend compte que l'univers est extrêmement violent. Enfin, en tout cas, il y a des processus très violents.
Exactement.
Un
ouais.
peu partout. Mm-hmm. Or, l'univers tel qu'on le voit à l'œil, je pense aux Grecs mm-hmm. par exemple, ouais. a servi de modèle, le cosmos, par sa stabilité,
mm-hmm.
Pour la pensée, pour la réflexion.
C'est pour ça qu'Einstein disait qu'il faut bien un univers statique.
Voilà. Et faisons-nous une sorte d'expérience de pensée. Qu'est-ce mm-hmm. qui se serait passé si les Grecs avaient su tout ça? Comment est-ce que ça aurait changé l'histoire de la pensée occidentale, par exemple?
Ben oui, peut-être toute cette stabilité n'aurait pas été intégrée comme ça à l'univers. L'univers, en fait, est très variable. On s'en rend compte aujourd'hui parce que on détecte beaucoup plus, par exemple, des sursauts gamma qui font une seconde, ou moins que la seconde, ou des sursauts radio qui font aussi des millisecondes. Bon, on avait les pulsars aussi déjà qui ont été en 64 détectés par Jocelyn Bell, encore une femme donc, qui n'avait pas été très visibilisée
oui.
à l'époque.
On ne l'a pas citée,
mais elle
est dans votre livre.
Nobel aussi. Mmh. Mais donc tous ces phénomènes variables, on les détecte de plus en plus actuellement. Et on a un télescope, construit un télescope, le Vera Rubin télescope, on rend honneur à Vera Rubin, qui est plutôt l'origine de la matière noire. Eh bien, ce télescope Vera Rubin va nous faire la vue du ciel en 3 jours, tout le ciel. Et dans la nuit, ils vont regarder les mêmes objets à des échelles de temps de quelques 10 secondes, 1 minute, 30 secondes. Donc ce sera un télescope pour regarder tout ce qui varie dans le temps. Et ça, on l'a pas fait. C'est une autre dimension qu'on appelle domaine temporel qui va être révélée. Et là, on pense qu'il y a énormément de variabilité. Alors, les neutrinos, là, très énergétiques, proviennent certainement d'un trou noir supermassif qui est le phénomène le plus violent qui arrive au cœur des noyaux de galaxies. Et comme ce sont des trous noirs très très petits, tout ce qui est variable doit être petit. Parce que on peut dire que tout ce qui varie sur une grande échelle, par exemple, un jour lumière ne pourra pas être plus gros qu'un jour lumière, parce qu'à ce moment-là, on aurait annulé toutes les variations. Donc, si on a quelque chose qui varie en un jour, eh bien, la taille de l'objet qui produit ça est plus petit qu'un jour lumière. Alors, s'il varie à la seconde, on voit que c'est la seconde lumière, donc c'est tout petit. Et donc, c'est tout ce qui se passe autour du trou noir supermassif qui est évidemment assez petit au centre de la galaxie.
Mais François Segonde, tout à l'heure, vous avez parlé de l'énergie quantique du vide, mm-hmm. ou plutôt de l'énergie du vide quantique.
Oui, voilà.
en la rapprochant de la constante cosmologique. Mais est-ce qu'on a comme ça le droit de marier des concepts qui n'ont pas comme source la même théorie? Parce que l'espace-temps de la relativité générale, c'est pas celui de la mécanique quantique.
Et voilà.
Est-ce que vous attendez, pour votre discipline, des progrès qui viendraient d'une possible unification entre les deux? Par exemple, pour étudier les trous noirs supermassifs.
Ah oui, exactement. Mais ça, on le cherche depuis un siècle, puisque même...
Bah oui, mais ça marche pas.
Et oui, ça marche pas. On avait les cordes, évidemment, mais ça marche pas non plus. Et puis on a la gravité quantique à boucle, et puis on a d'autres idées, mais on n'est toujours pas arrivé à marier, en effet, comme vous le dites, cette gravité et la mécanique quantique. Donc, ça, c'est un gros problème. Alors, peut-être que la matière noire est liée à cela. Parce que maintenant, on a des candidats de matière noire qui sont des particules vraiment tellement faible masse, que sont des actions de...
Actions avec un X.
Avec un X. Et tellement petites, avec des ordres de grandeur, une vingtaine d'ordres de grandeur en dessous, que la longueur d'onde de De Broglie, qui normalement est quantique, est très faible, elle fait 3000 années-lumière, la longueur d'onde de De Broglie. Donc c'est une particule quantique bizarre, qui ferait la matière noire. Donc peut-être qu'il faudrait trouver cette solution à la gravité quantique pour trouver la solution à la matière noire, peut-être.
Dernière question, François Segonde, qu'est-ce que vous diriez à une jeune fille aujourd'hui qui serait tentée de faire de l'astrophysique comme vous, mais trouverait ça trop difficile ou
c'est pas trop
trouverait
difficile
que le
du
contexte...
tout, du tout, du tout. Je pense que toutes les filles, comme tous les garçons, sont capables de le faire. C'est vraiment passionnant. Il faut surtout pas dire que, en tant que fille, on n'est pas aussi bonne que les garçons pour ce sujet-là. Il faut leur dire qu'elles sont absolument égales et qu'elles croient en elles, surtout parce qu'en général, les filles manquent de confiance en elle, elle a des préjugés, des stéréotypes, etc. On essaie d'y combattre, mais c'est pas facile. On a.
Mais je crois savoir, François Segonde, que vous allez souvent dans les lycées.
Voilà.
En France et à l'étranger. Comment est-ce que ce discours est reçu?
Eh bien, on espère que par l'exemple que l'on montre, parce qu'on montre tout ce qu'on a fait, Et ça nous fait un petit modèle, quoi. En général, on voit le scientifique qui est un homme, là, qui est barbu peut-être, un peu vieux.
Un peu vieux. Donc,
là, on montre des jeunes, enfin, il y en a quelques-uns, nos étudiantes y vont aussi, donc des femmes en tout cas, et puis qui sortent du modèle de Monsieur Tournesol en tablier blanc. Et donc on pense que ce genre de conférence pourrait en effet faire un modèle qui permette aux jeunes filles de s'identifier à cela et pour dire ben moi je peux le faire aussi.
J'ai envie de vous lire Françoise Combes une citation d'Alexandre Vialat. Donc, il ne faut rien changer, sauf peut-être le début, il dit « L'esprit de l'homme, on pourrait peut-être dire l'esprit de l'homme et de la femme, l'esprit de l'homme et de la femme ne cesse de rêver, mais aussi de méditer, de supputer, de calculer. Il a envie de savoir et besoin de ne pas comprendre. Bref, il a besoin de connaître et de s'émerveiller. Nécessité contradictoire, l'une exige de savoir et l'autre d'ignorer, d'où la science et la poésie. »
C'est
Vous êtes d'accord avec ça ?
C'est très joli, oui.
Alors, votre livre, je recommande la lecture, « Petite histoire de la cosmologie », écrit donc par Françoise Combes aux éditions du CNRS. Je pense que c'est un livre qui pourrait justement aider des jeunes filles à entrer dans la discipline et aussi à ne pas se laisser marcher sur les pieds.
Oui.
En donnant l'exemple de femmes,
plusieurs femmes
ont été victimes d'une forme d'arrogance masculine. Donc, je recommande très très vivement à tout le monde la lecture de votre livre et je vous remercie d'être venu à la conversation scientifique donc par Étienne Klein avec la collaboration de Thierry Beauchamp à la réalisation Vanessa Nadjar et à la prise de son Grégory Wallon.